Ah.
On va régler par rapport à...
Ah oui, oui. Voilà. Bien. Non, c'est bien refait.
Bonjour à tous. Merci de vous asseoir et d'éteindre vos portables. Alors, on a aujourd'hui la chance d'accueillir Aziz Alamrani, qui va nous parler de l'approche matricielle. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'approche matricielle parce que je vais le laisser parler. Mais on est vraiment content de l'accueillir parce que c'est quelque chose de très particulier et c'est assez rare de l'entendre. Donc, bienvenue et merci d'être
merci,
là.
Merci, Habiba. Merci, merci. Bonjour tout le monde.
Plus près. Alors, on va parler de l'approche matricielle. Qu'est-ce que c'est? On m'apporte quelque chose, un élément étrange. On va méditer un peu, on va fermer les yeux pour s'intérioriser un petit peu, pour créer une dynamique de la salle. Hein. Petite intériorisation. Comme ça, on va apaiser les impulsions de la salle. Petite intériorisation. On ferme doucement les yeux. Prenez conscience de votre corps. Quelques respirations conscientes. Petite intériorisation. En général, on s'intériorise pour être soi-même. On ouvre doucement les yeux. On s'intériorise pour être soi-même. Mais est-ce qu'on est soi-même? La vraie question qui se pose. Quand je me réveille le matin, quand je commence à penser, est-ce que c'est moi qui pense? On peut se demander par quel mécanisme je suis en train de penser? Quels sont les facteurs qui me poussent à penser? Après tout, il y a des pensées qui vont survenir d'une façon spontanée. On parle de 60 000 pensées conscientes par jour, et même plus maintenant. Donc ces pensées vont m'envahir à tel point que je deviens un outil, que je deviens un élément, un jouet de ces pensées. Je ne suis plus, je n'arrive plus à me situer à travers ce flot incessant des pensées. Et ces pensées sont causées par ce qu'on appelle la conscience collective. Il y a un champ, une grande matrice énorme qui va structurer ce qu'on appelle le champ matriciel collectif. On sait très bien que chaque chose a une matrice, a un espace où il va se former, se transformer. Le premier élément de notre existence, c'est une matrice, la matrice maternelle, dans laquelle on a pris forme. Dans cette matrice, on a reçu les énergies nécessaires et l'information nécessaire pour qu'on puisse être, pour qu'on puisse rentrer dans l'existence. Appréhender l'existence à travers ce flux d'énergie, d'information qui est niché dans la matrice maternelle. Là, on est connecté à travers cette matrice par le biais des éléments et des forces et des énergies de l'information. Donc, vous voyez que quand je pense, ce n'est pas moi qui pense. Il y a un élan qu'on appelle la matrice collective qui est riche en énergie information que je ne peux pas dominer. Je suis dominé par la conscience collective à chaque instant. À chaque instant, je suis le jouet de cette conscience. Je crois être, mais ça se joue en moi. Donc, mes chers amis, la nécessité d'être soi-même, mais c'est ça ce qui est important. Le défi de toutes les religions, quand elles étaient, une religion, quand elle était structurée dans la reliance et non pas dans la religiosité comme maintenant. Maintenant, c'est au contraire, elle a structuré, elle a surchargé la conscience collective. En élément négatif, qu'il faut aller au-delà de cette conscience collective, la transcender, la transmuter, la percer. C'est pour ça que l'essentiel maintenant, c'est être soi-même. C'est le défi de ce fin de cycle, être soi-même. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, on a appris énormément de choses. Quand j'étais étudiant à la faculté de médecine, on a appris des choses. Maintenant, j'ai quitté cette sphère médicale. Je ne suis plus dans la sphère médicale parce que être dans cette sphère, c'est être happé par une conscience collective qui déforme les réalités. La science médicale déforme en permanence la réalité. Pourquoi? Parce qu'elle tient un facteur essentiel qu'on appelle l'information. Si on prend un corps humain dans sa globalité, tous les atomes du corps humain vont changer chaque année. 99,9% des atomes de mon corps changent chaque année. C'est-à-dire, cette matière par laquelle et dans laquelle mon corps se structure est une matière qui change chaque année. Mais on peut se demander comment ça se fait que quand quelqu'un est dans, soi-disant, une pathologie chronique, le mot est souvent utilisé en médecine, et il y a toujours une équivalence, pathologie chronique, traitement chronique à vie, c'est qu'il y a un non-sens physiologique. Ça, c'est autre chose. Comment ça se fait que tout mon corps a changé, tous mes atomes m'ont changé, et je suis toujours malade? On peut se demander, c'est clair. Si on fait des études radioisotopes, on envoie des atomes chargés, on voit que 99 de mes atomes vont complètement changer chaque année, mais je suis toujours dans le processus pathologique. Ben, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La matière a changé. La médecine fait face à la matière, essaye de comprendre la matière, mais elle fait abstraction à une structure essentielle qu'on appelle l'information. Et l'information, c'est elle qui va en permanence gérer la matière, l'orienter, la structurer, la cristalliser. Bien sûr, je peux avoir des structures matières que je change à chaque instant. Je peux avoir une pathologie particulière. Si je ne change pas l'information connectée à cette pathologie, je ne change rien. C'est ça l'échec des traitements néoplasiques et des traitements en général. Donc vous voyez que le corps physique lui-même est sous la dépendance des matrices qui sont nichées dans des espaces, des micro-espaces, surtout quantiques, au niveau de l'eau intra-extracellulaire. Ça, on peut le voir en détail dans des formations, mais souvent, ces matrices, ces informations, vont être localisées au niveau de notre eau intérieure. Et puisqu'on est pratiquement à 80% d'eau, il y a des petits espaces entre deux molécules d'eau. Et c'est là où vont se greffer des structures informationnelles. Je peux changer la nature de l'eau. Je bois de l'eau dynamisée, ça fait, c'est bien, j'ai un peu, j'ai du pinche, mais l'information persiste. Parce que l'information est spatiale et n'est pas matière. Quand j'agis sur la molécule, je peux agir sur la structure matière, mais il faut agir avant tout sur l'information qui transforme la matière, qui prépare la matière. Et cela depuis le commencement de l'univers. L'univers a pris forme selon une impulsion bien précise qu'on appelle le point générateur. Mais avant ce point générateur, la physique n'a pas pu déceler le T0 du commencement de notre univers parce qu'il est informationnel. Il ne peut pas être mis en équation. Ce n'est pas de la matière. La matière est secondaire à des processus informationnels, à des matrices. Donc vous voyez, quand je pense, chaque fois quand une pensée me vient à l'esprit, il faut savoir que ce n'est pas moi qui pense. Ça se pense en moi. Il y a ces matrices qui forment ce qu'on appelle la conscience collective qui vont me saturer, qui vont m'orienter et qui vont me dogmatiser. En permanence, je ne suis pas moi-même. Et si on fait une petite analyse de cette matrice collective qui forme le champ universel, ce qu'on appelle le monde dans lequel on vit, eh bien, on va voir des catastrophes sous des concepts soi-disant scientifiques. La notion de maladie, la notion de vieillissement, la notion qui est hyper capitale qu'on va vivre les prochains jours, d'endémie et d'infection. C'est-à-dire la cause extériorisée, extériorisable, à travers un élément qu'on appelle le virus, le microbe. Vous savez que ces microbes sont produits d'une façon endogène. Et vous savez, il y a une réalité aussi qu'on laisse passer, c'est qu'on est formé de 10 puissance 33 cellules, mais on est formé de 10 puissance 34 germes, c'est-à-dire 10 fois plus de germes que de cellules. Alors comment oser utiliser le mot « tuer un virus » alors qu'on est viral par essence? C'est grâce aux oncogènes viraux qu'on peut dire qu'on est là, parce qu'au moment de la division cellulaire, au moment de l'embryogenèse, c'est grâce au virus que la multiplication cellulaire a pris forme. Donc, mes chers amis, la conscience collective, il y a des pseudo-réalités scientifiques nichées dans cette conscience. Et là, il faut être vigilant, c'est le discernement. C'est ça l'éveil, le discernement. Prendre conscience des choses telles qu'elles sont. Mais bien sûr, aller au-delà encore à travers la prise de conscience de ce qui suis-je. La première étape, c'est le discernement et de savoir réellement qu'on est un petit jouet au sein de cette conscience collective. Il faut être dans la vigilance. On est facilement emporté par la peur nichée dans cette conscience. C'est une peur énorme qui est activée par la crise économique. Et là, on va retrouver les éléments du piège. C'est un élément énorme, c'est un canevas, c'est un piège, parce que la peur va déclencher des processus endogènes qui vont faciliter et rendre notre terrain biologique faible. La peur va faire baisser le degré vibrationnel de notre corps, c'est-à-dire va cristalliser les informations subtiles et elle va amplifier les informations qui sont en résonance avec le champ matriciel collectif. Et vous voyez qu'on est en train de rentrer dans ce processus. Progressivement, on se fait piéger, on est à l'écoute de quelque chose qu'on va dire que c'est moi-même, et on est emporté. C'est l'élan de la conscience collective. Dans toutes les traditions, on a insisté sur l'élément de faire l'expérience de soi-même. Dans les évangiles de Thomas, qu'est-ce qu'il dit ? Bienheureux le solitaire qui va connaître le royaume de Dieu. Le solitaire, c'est celui qui fait l'expérience de soi-même. D'une façon intrinsèque, réellement être. Dans l'Advaita, c'est essentiel faire l'expérience de ce qu'on est réellement, en allant au-delà des résonances matricielles perverses qui peuvent nous perturber en permanence. Donc vous voyez, le tableau il est dessiné de cette façon. Quand je pense, ça se pense en moi. Et on peut résumer le mécanisme de la pensée selon une trilogie fonctionnelle. Cette trilogie est faite de l'observateur, la notion de l'observateur, qu'on va laisser au dernier parce que l'observateur, c'est la clé, la vraie clé de la situation. Le processus d'observation est l'objet à observer. On peut résumer dans toute la structure manifestée, quelle que soit sa nature, on peut voir cette trilogie se greffer dans le phénoménal. L'observateur, le processus d'observation et l'objet à observer. Le processus d'observation, il est surtout activé par la pensée, le moyen avec lequel je pense. Mais souvent, j'utilise ce qu'on appelle le mental, qui a une structure bien précise. Le mental va être activé par le cerveau, et le cerveau, il y a une réaction de biofeedback entre l'activation mentalisée et la partie physiologique neuronale du cerveau. Donc le mental est une résonance particulière qui va se structurer dans l'analyse fragmentaire. Le mental, par nature, il va fragmenter pour comprendre. Pour que je puisse comprendre, je dois diviser, fragmenter, pour que je puisse maîtriser les choses. Et ce langage a été inculqué pendant des milliers d'années dans notre conscience collective. Pour comprendre, il faut fragmenter. On a oublié la compréhension holistique. Pour comprendre, il vaut mieux rassembler, créer la reliance. L'intelligence, c'est trouver les éléments communs entre les différences, lire entre les lignes. On a laissé de côté l'intelligence et on a utilisé le mental qui fragmente. Et le champ collectif est noyé dans la fragmentation à tel point que je me fragmente moi-même, à tel point que je deviens un processus en permanence, je me rejette moi-même à travers cette analyse. Il y a une partie qui va rejeter une autre partie de moi-même. Et je passe mon temps à cristalliser une autocritique dans le rejet et dans l'incompréhension. Au lieu d'aller vers la structure globale qui harmonise les éléments, je suis connecté dans la structure qui fragmente et qui divise en permanence. Donc vous voyez, le processus d'observation et surtout canalisé par le mental. Au niveau scientifique, qu'est-ce qu'on dit ? Le mental est connecté par le néocortex, qui est le troisième cerveau, qui est le plus récent. Il a à peine 50 millions d'années d'évolution. Mais dans cette structure physiologique, la science oublie toujours l'élément fondamental. Il y a les neurones, certes, mais il y a une autre population cellulaire hyper importante qu'on appelle les astrocytes, qui ont des formes d'astres, qui... Cette population est spécialisée pour rentrer en résonance avec les éléments de différence, pour harmoniser les différences, pour créer la reliance, pour donner l'impulsion de la connexion. Le système neuronal nous structure dans la fragmentation et la déconnexion. Donc on est équipé physiologiquement avec ces structures. La structure astrocytaire est équipée pour cristalliser la reliance. Et on a besoin de réveiller cette population cellulaire. La science, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à cette population ? Elle a un rôle nourricier. Bien. Encore alimentaire. Elle va donner à manger aux neurones. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle va rentrer en résonance avec un élément fondamental qu'on appelle les énergies noires et le rayon noir. Le rayonnement noir. Je vais vous expliquer cet élément fondamental. Vous savez que dans notre univers, tout est structuré selon la trilogie fondamentale. Tout est axé sur la notion trilogique. On est dans un monde à trois valeurs, trois consciences, trois matières, trois cerveaux. Mais ce n'est pas un hasard. Parce que l'énergie de base de cet univers est structurée selon trois forces, trois champs d'énergie. Il y a l'énergie gravitationnelle, l'énergie nucléaire forte et l'énergie électrofaible. Les scientifiques, ils ont unifié deux champs énergétiques, à savoir l'électromagnétisme et le nucléaire faible. Pour nous, bon, on n'est pas des physiciens, on va donner un sens réel à ces formes énergétiques qui sont dans notre corps. Chaque particule de notre corps est le siège de ces trois forces cosmiques depuis le commencement de l'univers, depuis le Big Bang. Dans le soufisme, il y a une petite particularité. Le Big Bang, ce n'est pas une explosion. Dans la science, c'est une explosion. Dans le soufisme, il y a un sutra, entre parenthèses, qui dit « Samawat kanata ratqan fafataqnahuma » C'est-à-dire que les univers se sont diversifiés. Il n'y a pas une explosion amorphe. C'est une diversification de l'unicité. C'est-à-dire le un engendre la multiplicité. Et dans cette multiplicité, pour qu'il puisse révéler la différence, il va se retirer en douceur. Le un génère le multiple et il se retire. Et la diversité va apparaître. La douceur existentielle par opposition à l'agressivité avec laquelle on utilise les concepts, les Big Bang, la grande explosion. Bon, mais on est en train aussi de jouer sur la conscience collective. Qu'est-ce qu'elle est ? Cette conscience maintenant, elle est chargée de ces concepts, chargée de la grande explosion, de l'agressivité, de le rejet, rejet de l'autre, le microbe, le germe, le milieu extérieur, la peur. Tout ça est structuré dans le champ matriciel collectif. Donc je reviens à ces forces qui forment mon corps, ces forces qui sont à l'intérieur de chaque particule matière de mon corps. Et parmi ces forces, il y a ce qu'on appelle le champ ou la force électromagnétique. En pourcentage, vous savez combien elle représente par rapport à la globalité des structures, des forces de mon corps. Elle représente 0,05% de la globalité des forces que je porte. Et vous savez que cette force est le siège de tous les processus scientifiques. Toute la méthodologie scientifique est axée sur l'impulsion de cette force électromagnétique. À savoir, si je prends un microscope pour étudier une cellule, je vais l'agrandir, microscope électronique, eh ben je suis en train de révéler sa structure en rapport avec la trame de 0,05%. C'est-à-dire quand je vois mon corps, je le vois à travers cet angle de 0,05%. À tel point que cet angle, cette information gérée par le champ électromagnétique, c'est une information qui va me voiler en permanence ma réalité. À tel point que là, cette information, c'est elle qui est derrière le champ collectif matriciel. Quand, par exemple, quelqu'un va voir, va prendre un télescope pour voir ce qui se passe dans notre système solaire, eh bien, c'est le même mécanisme. Il est en train de voir à travers des yeux électromagnétiques restreints, il est en train de voir à travers un voile. Le voile. Notre conscience, nos consciences sont voilées à travers cette matrice informationnelle électromagnétique. Quand je dis électromagnétique, c'est un voile physiologique réel. La tradition a beaucoup parlé, les traditions. L'Advaita parle du Maya, le soufisme, du voile. Mais maintenant, la science l'a démontré. Mais il n'a jamais été explicité d'une façon globale. On a toujours passé à côté de l'information. Le champ électromagnétique va jouer le rôle d'un voile cosmique à tel point que notre conscience est piégée par ce processus en permanence. C'est-à-dire, pour faire le lien, les trois forces présentes dans l'univers, les trois énergies, le champ d'énergie appelé énergie noire, qui représente pratiquement plus de 70%, et le rayonnement noir, plus de 25%, ces deux champs ont été occultés par la science moderne. On n'arrive plus à les faire passer et on n'a pas développé une méthodologie pour les amplifier. Pourquoi ? Parce que c'est des champs qu'on ne voit pas. Et la science essaye d'amplifier le monde visuel qui est lui-même sous la dépendance du champ électromagnétique. Bon, vous voyez que le monde invisible est plus important que le monde visible. Notre réalité qui a été occultée par ce voile, par cette conscience collective, est plus importante que notre réalité manifestée. Je vous dis ça, mes chers amis, pour un élément fondamental, pour que vous soyez sûrs que vous êtes autre chose que ce corps manifesté, actualisé dans le voile à travers ce référentiel de 0,05%. Vous êtes une résonance de l'impulsion primordiale, de l'essentialité, qui a été complètement noyée dans la conscience collective et dans le voile cosmique à travers le champ électromagnétique. Donc le processus de l'observation est noyé dans cette résonance fondamentale qu'on appelle le voile cosmique, qui est le champ électromagnétique. Et c'est une réalité scientifique. Ce n'est pas ésotérique. Bon, je peux utiliser qu'on ait de l'illimité, mais maintenant j'utilise des concepts que la science a démontrés. Le pourcentage est dans tous les livres scientifiques. Que ce champ joue le rôle de filtre d'information. Je me restreins en permanence à travers la mise en marche de ce voile qui est connecté à la conscience collective et ils vont former comme un jeu cosmique pour que je puisse être déconnecté de ma vraie nature illimitée, illimitante. C'est ça le piège. Comment sortir de ce piège? Eh bien, pour sortir de ce piège, il faut actualiser notre réalité non manifestée. Toutes les traditions ont parlé de ça depuis. L'Advaita ne cesse de dire que pour qu'on puisse vivre dans le phénoménal, il faut être en connexion avec l'absolu, la réalité absolue, qui est donnée naissance au phénoménal. Dans le soufisme, je vous ai dit, c'est ce sutra qui décrit l'impulsion universelle, le commencement, dans la douceur. Le un qui devient multiple, il se retire pour que la réalité se fasse actualiser. Donc, à nous, conscience humaine, de jouer le rôle d'interface entre ce jeu de l'infiniment diversifié et le jeu de l'infiniment absolu qui est connecté à la source et qui symbolise ce qu'on appelle la matrice unicitaire, l'essentialité. Bien sûr, il y a énormément d'outils pour faire l'expérience de la transcendance. Dans l'approche matricielle, on propose des outils à base de ce qu'on appelle les résonateurs. Ce sont des structures vibrationnelles qui ont été, depuis 14 siècles, dans le soufisme. Et paradoxalement, on n'a pas beaucoup touché à ces mots parce qu'on n'arrive pas à l'époque. On n'a pas eu les éléments nécessaires pour les comprendre. Maintenant, la fin d'un cycle, il y a des éléments nouveaux, la science nous aide. Et on commence à comprendre l'aspect quantique de ce qu'on appelle de ces résonateurs, de ces mots, de ces vibrations. Ça veut dire que la fin d'un cycle va générer un éveil collectif qu'on est en train de vivre, bien sûr. Vous voyez, avant, parler du soufisme, de l'Advaita, on ne peut pas avoir autant de gens. Ça fait plaisir de partager quelque chose d'essentiel. La fin d'un cycle va générer l'éveil. Et cet éveil, justement, demande à être catalysé par des processus, entre autres, ce que je vous propose dans l'approche matricielle, les résonateurs. C'est des mots, c'est des sutras qu'on va essayer d'intérioriser pour qu'on puisse glisser vers soi-même à travers des interfaces. Vous savez, dans le processus d'observation et dans la cristallisation de l'objet à observer, il y a toujours trois niveaux. Quand tu prends un objet, il y a la distance entre toi et l'objet. Quand tu prends ta pensée comme un événement extériorisé, il y a souvent une pensée qui va être suivie par une autre. Et entre les deux pensées, il y a un petit silence. Entre les phases respiratoires, il y a toujours un laps temporo-spatial important. Ce petit silence entre deux pensées, qui a été chanté par l'activité du mental, chanté par l'activité intense du processus neuronal, doit être amplifié par ces éléments qu'on appelle les résonateurs, les sutras et les mantras. C'est-à-dire que cet espace entre deux pensées, c'est là où se trouve la réalité non manifestée. Ce laps temporo-spatial. On va glisser dans ce qu'on appelle l'infiniment bref pour être imprégné dans notre être-té, sortir et faire face d'une façon douce. On ne va pas se révolter. Faire face à la conscience collective. Alors là, on va faire face en essayant de la transmuter, de la renverser, de la faire rentrer dans un autre processus. À savoir, au lieu qu'il soit axé dans le processus neuronal de la fragmentation, du rejet, on va la faire pénétrer dans un processus astrocytaire de la reliance. Ce qui est très important, c'est que notre cerveau est équipé pour. Les neurones ne représentent que 10% à peu près de la population cellulaire cérébrale. Ce n'est pas un hasard. On retrouve la même proportion encore avec l'ADN active et l'ADN soi-disant poubelle. La science se cristallise sur une méthodologie électromagnétique. C'est la lumière éblouissante qui va cacher l'essentialité en permanence. Donc, ce petit laps temporo-spatial, il faut l'amplifier par des techniques. Bien sûr, on a besoin des techniques maintenant. Les adultes ont besoin d'une technique. Les enfants, ils naissent avec ce potentiel. Vous voyez un enfant, entre 3 et 4 ans, il va en permanence formuler une phrase, une pensée, et se propulser dans l'infiniment bref entre deux pensées. À tel point, parfois, on le trouve en train de rêvasser. Il est en train de transcender. Et c'est l'éducation, l'endoctrinement, l'enseignement qui va empêcher cet enfant d'amplifier sa capacité transcendantale pour le faire, le récupérer dans le champ collectif matriciel pervers. Ah, ça, c'est un constat. On ne juge pas. On n'est pas en train de juger. On voit les choses, comment ça marche, comment ça fonctionne. Parce que le jugement est dualiste. Si tu commences à prendre, à faire un jugement, tu es piégé par le mécanisme de la bipolarité du mental. Parce que le mental, quand il rentre dans un fonctionnement, il va souvent faire appel à sa structure voisine, amie, l'amygdale juste à côté, qui s'appelle le limbique, qui va, lui, le cerveau limbique, actualiser la structure bipolaire. Toute la moralité religieuse est nichée dans le limbique. Les automatismes. Le limbique est le siège des automatismes. C'est-à-dire l'apprentissage et l'automatisme. À tel point que l'être humain, quand il va actualiser le processus neuronal qui est fait de la fragmentation, il va exciter le limbique pour qu'il puisse rentrer dans la structure bipolaire et ramener ce qu'on appelle l'automatisme de l'instant. C'est-à-dire à chaque instant, l'homme se transforme en un automate. Il ne pense pas par lui-même, par la conscience collective. En plus, il va être régi par des automatismes. Hier, j'ai fait une telle réaction. Inconsciemment, je veux répéter la même réaction. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de l'inconnu. Et c'est dans l'inconnu que je peux vivre. Qu'est-ce qu'elle dit la tradition ? Goûter la chose. À chaque instant, elle change d'aspect. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la physique quantique ? Mes chers amis, votre corps est quantique. Il change à chaque instant. Si on fait une analyse de ce corps, qu'est-ce qu'on trouve ? Ben, c'est un assemblage d'organes, de cellules, de molécules, d'atomes. Lesquels atomes ? C'est un ensemble des particules subatomiques. Les physiciens rentrent encore, essayent de décrire, à travers même leur méthodologie électromagnétique. Après, ils vont trouver ce qu'on appelle un vide. Un vide parce que leur méthodologie est vide. Mais c'est un plein. Comment ça dire ? Mais c'est un vide plein d'énergie, d'information. Ils voient brutalement surgir des impulsions énergétiques sous forme de particules et d'énergie. Donc mon corps est un fleuve hyper changeant. À chaque instant, il n'est pas le même. Pourquoi je veux faire un diagnostic ? Pour figer quelques éléments, pour faire plaisir à un pouvoir extérieur. Mon corps change. Je n'ai pas le droit de le fixer avec mon mental. Quand je suis malade aujourd'hui, demain, je serai plus. Peut-être que même à l'instant même où j'ai prononcé le mot de maladie, mon corps a déjà changé sur le plan quantique. Donc quand je fais un diagnostic, c'est-à-dire je fige mes éléments en profondeur, mon corps dans sa nature quantique a déjà changé. Et vous voyez que ce changement, il faut l'entretenir, il faut l'amplifier, il faut ramener le changement quantique physiologique vers la conscience. Amplifier cet état qui est complètement intégré dans chaque particule de mon corps, l'amplifier, la ramener au niveau de ma conscience. À ce moment-là, il faut que je me relie à moi-même. Je me déconnecte de la conscience collective et je rentre et je me connecte à moi-même. Qu'est-ce que c'est que ce moi-même qui est l'observateur réel, qui est le champ de tous les possibles, qui est l'illimité? La tradition le traduit, l'explique avec ces termes. Le champ de tous les possibles, éternel, autoréféré à lui-même par lui-même. L'Advaita l'explique en ces termes d'autoréférence, de plénitude. Le soufisme aussi, c'est la même voie. Simplement, ces deux traditions insistent sur un élément fondamental, que cet observateur, ce n'est pas un concept verbal, c'est une expérience à faire à chaque instant. Dans le soufisme, on dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Ton moi profond, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est l'essentialité même de toute résonance manifestée. Donc, on va faire un transfert d'identité. Sortir de ce dogme qui est structuré dans le corps physique. Je suis ce corps, c'est un dogme, c'est une superstition énorme. Bien, je suis ce corps à travers la réalité de 0,05%, à travers cette structure électromagnétique, ce voile, je suis ce corps. Mais le reste, où est-ce qu'il est? Est-ce que ma conscience est imprégnée par ce que je suis réellement? Donc c'est tout un travail à faire, mes chers amis, à réveiller l'observateur au niveau de la conscience. Et c'est, il ne faut pas attendre la conscience collective pour que l'information se passe. Elle se charge à chaque instant. Il faut voir les médias, ce qui se passe dans les journaux, ce qui se passe dans chaque jour. Cette conscience collective se structure dans la lourdeur. Il est temps que l'être humain prenne conscience de soi-même. Toutes les traditions ont actualisé ce message. Il faut qu'on passe à la réalisation de notre être intérieur. Et c'est un grand. On a beaucoup de chance de vivre la fin d'un cycle. Qu'est-ce qu'il y a dans la fin d'un cycle? Il y a une énergie fondamentale qui va cristalliser l'ouverture et qui va ramener l'être humain à se connecter à soi-même. Il est temps maintenant qu'on profite de cette énergie, qui n'est pas électromagnétique. Parce que ce qu'on voit un peu dans tout ce qu'on vit, l'énergie de base est électromagnétique. Et cette énergie est souvent connectée à une information qui va structurer la conscience collective dans la déconnexion avec la source. Parce que cette conscience collective est déconnectée de sa source. Autrement, on sera heureux. La vraie joie, mes chers amis, c'est une joie sans objet de joie, par nature. Mais on a perdu tout ça. On a perdu le bonheur intérieur. Et notre joie a été assimilée à un objet extérieur. Et puisque les objets deviennent difficiles maintenant, mon désir se cristallise à travers le temps pour essayer d'avoir un objet extérieur, acheter un élément dans la société de consommation, les objets deviennent de plus en plus convoités et mon bonheur de plus en plus amoindri et la souffrance qui va prendre forme. Donc, aller vers l'intériorité, structurer l'élément de base, la connexion avec ce qu'on est réellement. Dans l'approche matricielle, on essaye de vous donner des outils pour amplifier. La chose est déjà en vous. Tous les grands qui ont actualisé ce champ d'unicité le disent, ils le vivent dans leur conscience profonde. La chose est déjà là. Simplement, il faut se réveiller à cet élément. en vous donne des outils pour qu'il y ait un éveil, l'éveil intérieur. Donc, l'essentiel dans ce message, c'est de réaliser ce qu'on est réellement et faire une sorte d'abstraction à cette conscience collective qui peut nous entraîner vers la déconnexion totale avec nous-mêmes. Donc, je crois que c'est ça le message de l'approche matricielle. Restructurer le moi, reconnecter l'individu avec son essentialité et être dans la vigilance et apaiser le mental par la compréhension. On n'est pas dans la croyance religieuse, on est dans la certitude scientifique qui, elle, va être expérimentée à chaque instant. C'est le travail intérieur connecté à travers une expérience qui va me ramener à me connecter avec moi-même et penser à travers moi-même et non pas à travers cette conscience collective qui s'active à chaque instant. Elle est en train de basculer maintenant. On va vivre des choses encore difficiles dans la conscience collective. Pourquoi ? Parce qu'il y a des antagonismes. Plein d'antagonismes. Qui peut gérer l'antagonisme ? Le mental ne peut pas gérer l'antagonisme. Le limbique ne peut pas. C'est difficile pour lui. Il faut opter pour X ou Y. Mais c'est le cœur qui unifie l'antagonisme. C'est l'amour. Unifiant la structure antagoniste à travers les impulsions d'amour. Mes chers amis, l'amour, c'est vous-même, c'est votre essentialité, c'est votre profondeur, c'est votre moi profond. C'est l'impulsion qui va naître chaque fois que vous êtes vous-même, que vous pensez à travers vous-même réellement. C'est ça l'amour, c'est un état de conscience. Ce n'est pas un sentiment bipolaire activé par le limbique qui est structuré dans l'émotionnalité. L'amour est un état de conscience qui unifie, qui va actualiser même le cerveau astrocytaire que la science commence à démontrer. On a même des structures physiologiques pour amplifier cet état de conscience qu'on appelle l'amour et la connexion. Merci, mes chers amis. Je vous laisse le temps de poser des questions. Merci.
Vous parlez un petit peu ce à quoi s'en réfère Deepak Chopra. Êtes-vous vous-même profondément heureux ?
Profondément heureux. Alors, on est heureux, bien sûr, à chaque instant. On active le bonheur. Mais on ne peut pas être profondément heureux tant que l'autre n'est pas dans le bonheur. C'est pour ça qu'on est là. Il faut qu'on partage les résonances du bonheur pour saturer la conscience collective avec un bonheur réel fondamental. Donc, on ne peut parler de profondément heureux lorsqu'on est tous intégrés dans le bonheur. Quand il existe, qu'il reste un être isolé de ce bonheur, on ne peut pas être profondément heureux. Oui, moi, je ne me projette pas, Habiba, je ne me projette pas sur les autres, je parle de moi-même. Et c'est ça ce qui est fondamental. Essayez de faire référence à ce que vous sentez réellement. Si je commence à me projeter, il y a le maître tel qui était dans la plénitude, il voit l'autre illusion. Bien sûr, vous êtes souffrant. Vous allez voir un maître au septième état de conscience, qu'on appelle l'état d'unité. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Tout est illusion. Mais pour moi, l'être qui vit dans le voile, c'est une grande frustration d'avoir cette réponse. Je dois comprendre. Pour moi, je dois passer par les phases de compréhension. Donc, je me réfère à moi-même. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas la conscience collective. Être vous-même. C'est ça l'essentiel de cet enseignement. Se connecter à chaque instant à vous-même. Oui, Habiba.
J'aimerais ajouter quelque chose. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Rumiana. Je viens juste à la fin de votre conférence. Je suis navrée parce que j'ai voulu vraiment me présenter. Je suis physicienne. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'aimerais ajouter quelque chose. Voilà. D'abord, je pense que l'être humain est vraiment le corps doté d'esprit. Quand on parle du corps, on touche la physique quantique. On touche la physique du Newton. Il y a la causalité. Quand on touche l'esprit, quand on parle de l'esprit, il faut bien préciser de quoi on parle, parce que l'esprit touche la physique quantique. Et quand on touche la physique quantique, les choses sont complètement différentes. Maintenant, notre modèle de pensée, il touche l'esprit, mais d'une manière causale. Donc, on est dans la physique du Newton. Et tout ce qui est dans la physique du Newton, de manière causale à penser, il créer des souffrances. C'est ça que les gens devraient comprendre, mais ce n'est pas facile à comprendre. Et tout ce qui touche la relativité de l'esprit, quand on commence à comprendre la relativité du modèle de pensée, c'est déjà un très, très grand, très grand pas. Voilà, parce qu'on a compris qu'un modèle de pensée peut être faux, peut créer des souffrances, il peut être détruit, il est temporaire. On rentre dans un autre modèle de pensée. Le fait de vouloir ça fait évoluer les choses. Parce que qu'est-ce qu'il dit, la physique quantique? Comment vous voulez comprendre qu'on est en même temps ici et partout? On est interconnecté. C'est ça que les gens devraient comprendre aussi. Que l'amour, quand on est dans un état de l'amour, l'amour par une personne seule n'existe pas. C'est ça que les gens devraient comprendre. Je ne peux pas être heureuse et tout le monde autour de moi être malheureux. C'est impossible. C'est pour ça, si tout le monde dit « Oui, je voudrais être heureux, mais je voudrais aussi tout le monde autour de moi être heureux. » Comment ? Je rentre dans un état d'esprit quantique où je suis en même temps à moi-même comme particule et en même temps partout pour les autres. C'est un peu difficile à expliquer, je m'arrête ici.
Là, il y a une particularité quand même. Le corps est aussi quantique, mais c'est la méthode qu'on utilise qui peut être différente et qui peut être véhiculée par la physique de Newton. Parce que le corps, c'est un ensemble de particules. Et les particules obéissent à la physique quantique par leur nature, énergie, information. Donc le corps est en permanence dans un processus quantique. L'esprit, il va lui-même, la pensée, on doit la structurer sur un plan quantique. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'éducation de l'homme qui a donné à ces structures une déviation fonctionnelle. C'est-à-dire, on a pris le corps comme un solide figé dans l'espace et le temps. On le voit comme un objet figé dans le temps et l'espace, alors que c'est une mouvance, c'est un fleuve. Et la médecine le voit en tant qu'objet et même un ensemble d'objets, un ensemble d'organes. C'est encore pire. Ça veut dire que le corps, dans sa nature quantique, il est fait d'énergie d'information, et cette énergie d'information est dans un processus en permanence d'interconnexion. Interconnecté à tel point qu'on peut voir dans ce corps un espace énorme, parce que l'espace entre un noyau et un électron, c'est à peu près 90% de vide, c'est énorme. Ça veut dire que notre corps, là la physique quantique commence à le toucher, est fait de ce vide intercosmique énorme. Mais la question qui se pose, la physique quantique a utilisé une méthode, une méthodologie matière lumineuse ou champ électromagnétique. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle voit du vide. Mais ce n'est pas du vide, c'est du matriciel. C'est quoi ce qu'on apporte ? Un élément en plus que la physique quantique et qui est décrit dans toutes les traditions. Que ce vide, et il est vide parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on a utilisé des structures, des méthodes axées sur les énergies, matière lumineuse, électromagnétique. Si on développe une vision réelle, des yeux matriciels, qu'est-ce que tu vas voir ? Eh bien, tu vas voir énormément d'entités réelles connectées à la source. Et c'est ça ce que voient les gens connectés à leur source. Ils ne voient pas les êtres séparés par une distance. C'est une seule mouvance connectée dans l'amour, connectée dans, à travers ces particules qui sont vivantes. Parce que tout est vivant et tout est interconnecté.
Oui, je... Oui, il y a une question, oui. Par rapport à la question effectivement des illusions du mental, ça me fait vraiment penser aux enseignements de Jiddu Krishnamurti, hein, parce que c'est quand même lui qui a travaillé cette question-là. Et je me pose quand même la question effectivement de l'inconscient individuel, parce qu'il y a quand même effectivement l'histoire de la personne, donc on peut après ouvrir à des perspectives spirituelles, pour ainsi dire. Enfin, même si vous donnez une question scientifique sur cette question-là.
Question.
Et puis je pense aussi que ça peut être intéressant de poser la question de la reprogrammation de l'ADN. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses par rapport à ça ?
C'est important.
Parce que la physique quantique est quand même effectivement en lien avec tout ça.
Deux bonnes questions. La première, c'est la position personnelle et personnalisée à travers l'inconscient de la personne. L'inconscient, il va être engrammé par l'histoire individuelle, l'histoire familiale, l'histoire transgénérationnelle et l'histoire de la race, jusqu'à l'histoire collective. L'inconscient personnel se connecte à l'inconscient collectif à travers des éléments. Quand tu commences à travailler pour te connecter avec toi-même, il y a un système d'auto-purification qui va s'installer. C'est-à-dire, au lieu de faire appel à l'autre, pour que je puisse effacer mes mémoires. Là, un élément fondamental aussi. Parce que notre culture, c'est la valorisation de l'objet, de l'autre. Je vais me faire psychanalyser. Je vais analyser mes mémoires à travers l'autre qui va le faire avec un décodage. Ça peut être bien, bien sûr. Il y a des choses magnifiques. Mais c'est toujours dans le même mécanisme. C'est-à-dire la valorisation de l'objet et de la logique. De l'objet, la logique, ce qu'on appelle la logique linéaire, la logique de causalité, qui est une logique fragmentaire. Au lieu de faire appel à ma vraie nature intérieure, ma vraie nature, elle est au-delà de la logique linéaire. Elle est multifactorielle, c'est une logique gradiente. Et cette logique est derrière chaque événement que je vis. Si je vis un événement stressant, soi-disant une maladie, la logique linéaire, elle va trouver une cause, quelle que soit la position. Celui qui fait le décodage trouvera une cause. Celui qui fait la logique linéaire par excellence, il trouvera un germe. L'autre trouvera X, Y. Chacun trouve une causalité selon son angle de vue. Mais toi, en étant dans ta profondeur, qu'est-ce que tu vas trouver ? La multifactorialité que tu vas transcender à travers ton œuvre intérieure, qui est une alchimisation en permanence de ce que tu es. Donc c'est un élément fondamental. C'est la même chose avec ce qu'on appelle déprogrammer l'ADN. Qui déprogramme l'ADN ? C'est l'autre. Ben, je refuse que l'autre me déprogramme mon ADN. L'autre me manipule à travers la conscience collective. C'est à travers moi-même que je dois rentrer en résonance avec mon champ de toutes les possibilités. Parce que ce champ, il est équipé de ce qu'on appelle une information infinie. Mais celui qui va programmer mon ADN, il a une information, elle est ce qu'elle est. Il a son angle de vue, sa position, comment il va lire, sa méthode. Certes, les méthodes peuvent changer, je peux avoir un certain bien, mais ce bien va être un bien tellement néfaste qu'il va encore me propulser vers l'extériorisation, parce que je vais croire que c'est l'autre qui est la cause de cette déprogrammation. Mes chers amis, je vous invite à rentrer en vous-même. Il n'y a pas de solution. C'est vous-même, au fond de vous-même, à travers vous-même, en vous-même, que l'essentialité a pris forme, que l'essentialité trouve la solution à tous les problèmes. Quelle que soit la méthode, si vous êtes connecté avec vous-même, et les gens qui sont connectés me diront toujours, il y a toujours une solution qui va naître. Toujours, elle vient, cette solution. Elle est formidable. C'est une solution qui émane de l'information infinie, du champ qui a toutes les informations possibles. Elle ne va pas émaner d'un champ mentalisé, fragmenté, et qui structure la fragmentation. Très bonne question, Habib. D'autres questions ? Oui.
Simplement, je prends la parole parce que c'est important pour que les gens le sachent. On ne peut pas... D'accord, merci madame. Oui, parce qu'on peut pas, on ne peut pas déprogrammer DNK. On peut. L'ADN, on ne peut pas le faire. Mais on peut se libérer de tous les modèles mentaux parce que l'esprit, justement, c'est ça, et nous rendre notre vraie identité. Parce que c'est en travaillant, en être ici et maintenant, c'est ça la physique quantique. Vous êtes ici et maintenant, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Vous êtes tel que vous êtes, cet état de l'esprit ici et maintenant. Elle vous rend votre vraie identité, qui est avec laquelle vous êtes déjà venu. Hein. Vous êtes libéré, c'est tout. Merci.
Oui, voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche de l'approche matricielle, c'est l'enfant. Oui. C'est l'enfant, c'est la mère, qui est pour moi un terrain fondamental. Et s'il y a une approche pour demain, qu'est-ce qui est à mettre en place au niveau du féminin? Oh. Et comment apporter, je ne vais pas utiliser le mot structurer non plus, comment bien. Faire en sorte que pour les générations à venir, elles soient empreintes de cela, dès la procréation.
Ouais. Je donne toujours un exemple physique et physiologique pour démontrer que la mère, l'ovule, ce que la mère va produire, ce qu'on appelle l'ovule, qui est une cellule particulière, d'ailleurs une cellule sphérique, c'est une sphère. Une sphère, ça sous-entend un processus non linéaire, une rotation. Et cet ovule, elle va faire une expérience particulière. elle va faire l'expérience de la chute, l'expérience de l'énergie gravitationnelle. Pendant l'ovulation, l'ovule va chuter des trempes. Elle va expérimenter la pesanteur. Qu'est-ce qu'il y a dans la pesanteur ? Un élément fondamental, l'attraction, qui est l'élément primordial de l'amour. Attirer vers l'autre et attire l'autre, le processus d'attraction. Le spermatozoïde, lui, ne fait pas cette expérience. Il est linéaire. Il a une cinétique. Il a une énergie électromagnétique. C'est pour ça que l'approche matricielle va donner plus référentiel à la matrice, qui est un élément fondamental dans la connexion et qui est régi par des lois matricielles bien précises, à savoir l'ouverture, la fin d'un cycle est un cycle matriciel. C'est les énergies du yin cosmique qui vont s'actualiser. Et c'est la mère, l'énergie de la mère. Bien sûr, après, quand tu prends possession de cette énergie, tu vas la transcender pour arriver vers l'unité. C'est ça. Mais l'énergie matricielle va nous aider parce qu'ils sont connectés à l'amour, connectés à travers une expérience réelle, à travers notre identité matricielle. Et l'enfant, bien sûr, qui est l'élément au centre de cette évolution, va être nourri par l'énergie matricielle, l'énergie gravitationnelle qui n'est pas électromagnétique, qui est une énergie de connexion, une énergie d'amour.
Oui, Habiba. Oui, j'aimerais que vous reveniez, si vous pouvez, sur les résonateurs de correction et ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent, en fait. J'ai pas très bien.
Les résonateurs, c'est des mots, c'est des vibrations qui sont dans le soufisme évolutif. Ce n'est pas le soufisme traditionnel parce qu'on ne les utilise pas dans le soufisme classique. Hein. C'est très récent. Et c'est des mots quantiques, si vous voulez. Ils vont amplifier l'interface entre deux pensées. C'est-à-dire, quand il y a une pensée, je pense et je vais envoyer un résonateur. L'interface entre deux pensées, qui est le silence, va s'amplifier. Et ils ont aussi la particularité de purifier d'une façon endogène ce qu'on appelle les matrices négatives, les fameuses matrices qui se nichent dans des espaces intermoléculaires entre deux molécules d'eau, parce que c'est là où on va en permanence mémoriser les traumatismes. C'est pour ça, dans l'approche matricielle, on parle de la mémoire dans l'eau. Ce n'est pas la mémoire de l'eau. C'est une mémoire greffée dans les molécules subtiles de l'eau. C'est un micro-espace tellement subtil. C'est dans ce micro-espace que vont se greffer les matrices traumatiques, traumatisantes. Et là, avec les résonateurs, avec un travail intérieur personnel, je vais purifier mes propres matrices à travers les résonateurs. Le rôle des résonateurs. Mantra, ils ont un rôle surtout pour amplifier la transcendance, le silence. C'est pour ça qu'on a couplé les deux dans l'approche matricielle, et les mantras et les résonateurs, pour, en même temps qu'on va amplifier le silence, purifier les matrices négatives, pour qu'on puisse être nous-mêmes. Dans le but de tout ça, c'est réveiller notre réalité, notre moi, à chaque instant, d'un instant à l'autre. Bien sûr, ce qu'elle dit la dame est formidable, mais il faut avoir, il ne faut pas que ce soit que verbal, il faut que ce soit vécu, un état vécu, c'est ça la différence. La physiologie nous démontre maintenant qu'on a les éléments physiologiques pour faire passer, pour asseoir cet état de conscience. Quand je suis dans le rêve, par exemple, un état de conscience de rêve, c'est parce que je suis équipé sur le plan neurophysiologique pour que je puisse rêver. Autrement, je ne peux pas rêver. Pourquoi je suis dans un état d'éveil ? Et parce que je suis équipé sur un plan neurophysiologique, à travers mes neurones, de rentrer en résonance avec ce qu'on appelle l'état d'éveil. Mais la même chose. L'état des consciences subtiles, je suis équipé physiologiquement à travers des cellules qui sont plus importantes dans mon cerveau et qui, elles, me connectent avec mon essentialité. Notre corps est équipé pour vivre des états supérieurs de conscience. Notre ADN est codé pour vivre plusieurs états de conscience et non pas trois états, l'éveil, le sommeil et le rêve. Oui, Habiba, merci.
En fait, moi, ce n'est pas une question que je veux vous poser, mais je veux dire en gros, vite fait. C'est qu'en fait, la plupart des gens... Moi, je suis une personne qui a eu un accident, donc je ressens énormément les gens depuis mon électrocution. Je veux dire, je vous remercie pour ce que vous faites. Je vous remercie d'être ouvert. Je vous remercie d'être dans la passion, comme la personne ici, là-bas, qui s'est exprimée face à tout le monde, qui, justement, ce que vous avez enseigné, c'est l'amour. Et vous savez, la plupart des gens étaient dans le jugement. Ça m'a fait mal parce que, justement, on ne laisse pas... Je sais que cette personne aussi, pareil, c'est son mental, c'est elle qui parle. Mais ce qui est important, c'est d'être toujours dans le cœur. Vous savez, moi, tous les soirs, je prie. Pas que pour moi, mais je prie pour la terre entière, pour l'humanité entière. Et en plus, je ne vous connais pas, mais je prie. Pourquoi ? Parce que quand je prie pour vous, je prie pour moi. Vous savez, depuis cet accident-là, je suis dans l'amour. Et ce que vous avez dit, ce qu'on regarde, moi, je ne regarde pas à travers mes yeux, mais je regarde à travers justement ce qu'on appelle le troisième œil. C'est-à-dire, quand je vais regarder dans le ciel, je vais voir des millions de particules de lumière. Et vous savez, ces millions de particules de lumière, je les vois là où il y a justement l'amour, là où il y a les égrégores. Quand, par exemple, je suis musulmane, je vais dans une église, je vais prier avec les chrétiens, je vais prier même avec les juifs, je vais prier avec les bouddhistes. Mais vous savez, lorsqu'on est vraiment dans la foi, il n'y a pas de religion, il y a la spiritualité. Et je veux vous dire une chose, c'est que moi j'ai été plusieurs fois malade quand avant je n'étais pas dans l'éveil. Je me suis fait opérer plusieurs fois, j'ai subi beaucoup d'agressions au niveau du corps. Mais maintenant que je suis dans cette énergie d'amour, c'est une énergie d'amour que je vous souhaite à tous de ressentir. Pourquoi ? Parce que vous êtes tellement dans cette énergie d'amour que vous devez appeler. Moi, j'appelle tous mes amis, j'appelle tout le monde. Parce que quand vous êtes connecté, c'est tellement fort que vous ne pouvez pas le garder que pour vous. Ça m'étouffe. C'est une énergie que mon corps ne supporte pas. Je vous le souhaite à tous, vous qui êtes là. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite d'aimer et de donner, sans compter, parce que c'est ce que je fais maintenant. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dois de vous le dire. Je me dois justement de vous dire ce que je suis. Vous savez, depuis que je suis dans cet éveil-là, j'ai l'impression d'avoir des millions d'années. Mais je suis là pour donner et je donne en parlant. Et si, même si, on va dire, des personnes, on va dire, ne sont pas encore dans cette conscience supérieure, cette conscience de l'éveil, au moins je vous aurai touché. Et si je touche votre cœur, eh ben, j'espère que de même vous ferez avec votre famille, avec vos amis et même les gens qu'on regarde dans la rue et qui n'ont pas de quoi manger. Moi, je cours vers ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une conscience. Et parce que si je leur donne un morceau de pain, c'est que je me donne moi-même un morceau de pain. Voilà, je vous remercie et je vous dis d'aimer, qu'on soit noir, blanc ou n'importe quel. On est tous. On fait tous partie de la même famille. Voilà.
Merci. Très juste. L'autre, c'est toi-même habillé d'une autre façon. Merci, Habiba. Très juste. Merci.
Excusez-moi, c'est une question de base. Je n'ai pas très bien compris votre énergie de 0,5%. Et puis aussi, par exemple, pour les détecteurs de mensonges qui détectent une énergie, est-ce que vous pourriez me donner une précision et faire le lien avec ceci, par exemple ?
Oui, important. Les énergies de base de l'univers, c'est 100%. Ils ont calculé, ils ont trouvé, les scientifiques, que 70% d'énergie de base est faite d'énergie noire, qu'on appelle les énergies noires. 25% c'est fait par le rayonnement noir et 5% par des énergies électromagnétiques. Il se trouve que nous, êtres humains, on est sensible qu'à une partie des énergies électromagnétiques, 0,5% et même 0,05%. On ne peut pas voir les ultraviolets, les rayons X. Donc, on vit dans un voile. C'est-à-dire dans un processus restrictif au maximum. Les autres énergies sont invisibles. Et notre corps est formé par ces énergies. Mon corps est formé par des énergies noires, rayonnement noir et des énergies électromagnétiques. Je ne vois qu'une petite partie. La science qui le démontre. Simplement, la tradition, qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, la tradition dit la chose suivante. Et le monde invisible est plus important que le monde visible. Ce que vous voyez est négligeable par rapport à ce que vous représentez. Pourquoi je vous donne ces exemples ? Pour vous dire à quel point la science avance pour nous apporter des clés. Et nous, qu'est-ce qu'on reste ? Toujours figé dans les processus classiques, à savoir qu'on est des êtres limités, qu'on est souffrant, qu'on va attraper telle chose, on vit dans la peur, parce qu'on est greffé sur la conscience collective qui est, elle, nourrie par le voile cosmique. Et que ce voile est fait d'énergie magnétique. C'est une éblouissance. La vraie énergie est ailleurs. Elle est au fond de vous-même. L'autre question, Habibi, c'était quoi ?
C'était les détecteurs de mensonges, ils détectent une énergie.
En tout cas, cher ami, toute la méthodologie scientifique est basée sur des champs électromagnétiques. Qu'est-ce que tu vas détecter ? Tu vas détecter une révélation à travers le potentiel d'action, le potentiel de résistance. Ça vaut ce que ça vaut. Mais souvent, le mensonge se situe au niveau de la partie la plus superficielle informationnelle. On ment à travers notre esprit conscient. Donc, à travers cette partie 0,05%, on peut retrouver, on peut la vérifier, c'est reproductible. Mais moi, je parle de votre potentiel qui est autre que le champ électromagnétique, qui est plus important. Oui, Habibi. Alaykoum as-salam. Tout à fait. Le soufisme, la science du goût.
Voilà, alors, je ne sais pas si j'arriverai à redire la même chose parce que c'est l'instant qui l'a dicté. Ouais, mon élan, c'était de... Alors, soit que vous me parliez de la méthode, ouais, soit qu'il y ait une expérience qu'on... Je vis déjà une expérience avec vous, là, maintenant. J'entends le mot amour et quand je regarde vos yeux, ça vibre, ça pétille. Et voilà, c'était ça, mon envie, si c'est quelque chose. Merci.
Une énergie formidable. Et justement, cette énergie qu'on appelle l'énergie matricielle, qu'est-ce que c'est ? C'est pas électromagnétique. Nous, on a l'habitude de vivre des expériences à travers le magnétisme, le champ électromagnétique. L'énergie matricielle est plus apparentée aux énergies gravitationnelles que l'ovule a connues pendant son évolution. Je peux dire que l'expérience, on peut partager une expérience, c'est déjà fait par un effet d'osmose. Les énergies matricielles traversent, sont au-delà du temps et de l'espace. Quand on parle, on se situe d'une façon temporo-spatiale, mais il y a quand même une énergie circulante qui, elle, chante le temps et l'espace, elle vient toucher les cœurs de chaque personne. Et c'est ça l'éveil. Je peux parler, mais chaque parole va véhiculer une autre énergie. La parole, c'est quoi ? C'est des sons, c'est une vibration, c'est électromagnétique. Mais à travers ce véhicule électromagnétique, il y a quand même un flux d'énergie d'éveil. C'est pour ça qu'on entend des gens qui sont au septième état de conscience, des gens évolués, on s'en emporte. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette énergie qui vient nous réveiller. Le phénomène de Darshan, énergie visuelle, qui vient nous emporter. Et la fin de ce cycle, c'est une amplification de cette énergie. Il y avait un grand maître qui me disait, « Eh bien, docteur, vous savez, les âmes désincarnées cherchent à prendre un corps pour s'incarner dans la fin d'un cycle parce que c'est tellement beau ce qui va se passer. » Bon, soyons heureux. Et activant la réceptivité de cette énergie. Pour l'expérience, c'est une expérience. C'est une expérience. D'autres questions ? Oui.
Merci. Dans la manière de se connecter à soi-même, est-ce qu'on pourrait avoir... quelques précisions. Je sais que c'est vaste, mais notamment quand on parle... est-ce que ça fait plutôt référence à être seul, et je ne le crois pas, si j'ai bien compris, ou est-ce qu'on peut faire aussi un petit peu appel, et appel quand on parle de l'énergie universelle, et dans la continuité, est-ce que cette énergie universelle, elle est en contradiction avec ce champ collectif qui peut... exactement.
Alors, la problématique est la suivante. La prière ou l'appel est structurée à travers le verbe, la pensée manifestée. Quand je pense, je suis dans l'information superficielle, c'est-à-dire j'épouse cette interface restreinte de 0,05%. Donc mes prières sont limitées à travers cette action. Je peux demander, et souvent, c'est pour ça que la prière n'est pas souvent activée, il faut ramener la prière vers l'essentialité, c'est-à-dire ouvrir les portes de l'autre énergie. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers l'interface entre deux pensées et s'imprégner de cette énergie transcendantale. Une énergie information qui est actualisée à travers des mantras, des structures vibrationnelles et des résonateurs qui sont, quand je fais une formation, chaque groupe, il a son propre mantra et son propre résonateur. C'est une initiation de groupe. Et là, on apprend à méditer. C'est une technique très importante. Méditation, ce n'est pas la concentration, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la contemplation. On a tout mélangé. On a tout mélangé. Là, on revient dans la formation matricielle. On apprend qu'est-ce que c'est que réellement méditer. On restructure les éléments. Après, bien sûr, il y a la phase du soufisme qu'on appelle le dhikr, se rappeler. En arabe, le dhakara, le rappel, dhikr, se rappeler de ce qu'on est réellement. Au lieu d'être identifié avec ce corps image, parce qu'il est identifié avec le champ électromagnétique, on va se rappeler de ce qu'on est réellement, le rappel. Et là, on va imprégner le cerveau limbique, qui est un cerveau d'automatisme, de répétition, par des résonances subtiles à tel point qu'il va lâcher l'automatisme individuel et rentrer dans l'automatisme de la transcendance. C'est toute une technique. On a besoin maintenant. Je vous ai dit que c'est une nécessité d'avoir des outils. Bon, je vous propose ces outils, mais on a d'autres. Hein. Il y a d'autres écoles, d'autres outils. Ce que je propose, ce qui est original dans cette approche, c'est cette fusion entre l'Advaita et le soufisme, qui est hyper importante. Le soufisme, dans sa notion de la non-dualité, ça n'a pas de rapport avec la religion. Hein. J'ai fait une formation au Maroc, et les gens ont essayé de me ramener vers leur truc religieux. J'ai dit, ah, arrêtons, je ne joue pas ce jeu. Parce que la religion a été dogmatisée, politisée à fond. Les trois, sans exception, ils ont causé plus de tort que de bien. Là, on est dans la structure traditionnelle, dans les résonances de certaines traditions qui nous apportent des ouvertures avec des visions scientifiques, actualisées avec des concepts scientifiques. Et c'est ça ce qui apaise le mental. Le mental va comprendre, il va s'apaiser. Et je profite de cet apaisement pour donner à mon mental des structures pour qu'il puisse être transcendé. Et là, je fais l'expérience. Je vis intérieurement. Je m'approche de mon être. C'est ça ce qui est fondamental. Moi-même, pas l'autre. Et je rentre dans cette ouverture qui est un état de solitude pleine de résonance cosmique. Et finalement, ce n'est pas être seul. On est complètement noyé dans les connexions matricielles, globales et globalisantes. D'autres questions? Oui, Habiba. Bonjour. Assalam, Habiba.
Merci à toi, mon frère. Merci à vous tous d'être là. Est-ce que tu as connaissance de la descente de la supraconscience qu'avait réalisée Aurobindo en 1947 et qu'a réalisée à nouveau cette année, en février, Sri Tathagata? Il a circulé en Europe pour nous faire cadeau des temps, nous indiquer les temps et comment nous connecter à cette supraconscience. Ça a été donné le 16 septembre à Montreuil. Il a fait aussi un darshan en passant dans toutes les allées. J'ai de multiples détails à te communiquer, mais est-ce que tu es au courant des temps vraiment précis pour se connecter vraiment à la supraconscience? C'est encore beaucoup plus démultiplié, je pense, par rapport aux techniques que tu présentes.
Très juste. Très juste, c'est la même chose. Simplement, cette supraconscience, elle est toujours présente. Il y a des moments où il s'active plus.
Ces temps-là que je te propose.
Je ne peux parler que de mes expériences personnelles. Moi, quand je médite, je me réveille souvent à 4 heures du matin, et là, c'est amplifié. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il n'y a pas de mystère. Pourquoi 4 heures, 5 heures du matin? Cette phase où le soleil, et au minimum, c'est une interface où le champ électromagnétique est très faible. Et là, l'autre force s'active. Vous savez, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a que le bon sens. Et rentrez vous-même, n'essayez pas de donner raison à l'autre. Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vous. La notion du gourou est devenue caduque. Puis bien sûr, il y a des êtres avancés, mais ils sont avancés pour eux-mêmes. Peu importe, moi je vous dis, je généralise, j'exagère un peu. Il y a des gens qui nous aident, et ça nous aide en profondeur, c'est certes. J'étais au Maroc avec les gens d'un grand maître soufiste. Il y a une aide, comme la demoiselle, elle dit, je prie pour tout le monde. Ces êtres prient pour toute la terre, pour tout l'univers. C'est une évidence à respecter ces êtres, à valoriser. Mais il ne peut pas faire mon expérience. Ce mythe qu'on a essayé de faire passer comme quoi il y a un maître qui va prendre le fardeau karmique des gens. Oubliez ce mythe. Oui, Habiba.
Bonjour. Justement, je voulais parler de méditation et citer les temps. Je suis musulmane et je pratique la méditation, donc je sais que les temps sont importants. Il y a 5 prières dans la journée qui ne sont pas citées à des temps au hasard. Justement, ce sont 5 temps d'énergie qui sont très importantes. Et c'est bien pour cela qu'il est toujours préférable de faire sa méditation à un temps bien donné, si c'est possible. Mais sinon, à part ces 5 temps-là, je sais qu'il y a une partie de la nuit qui est très importante parce qu'elle est très chargée d'énergie. C'est le dernier tiers de la nuit. Ouais. Et les soufis vont jusqu'à le calculer en fonction de la longueur de la journée et de la longueur de la nuit. Donc en divisant par 3, tout simplement. Et récupérer le dernier tiers de la nuit, c'est celui qui est chargé de plus d'énergie. Et il est dit justement que pendant ce dernier tiers, il y a les anges de la nuit et les anges du matin qui sont présents en même temps. Et la lumière vient justement de la présence d'une grande présence énergétique.
De l'interaction des deux.
Lumineuse qui vient de la présence de ces anges. Et certaines personnes malades vont jusqu'à justement profiter de ce dernier tiers de la nuit pour méditer et récupérer le plus de lumière et d'énergie possible pour la guérison ou pour la clairvoyance ou pour la méditation. Après, chacun a
Oui.
Mais sinon, au niveau de la méditation, pour venir aux les sutras, donc j'ai vu, moi je suis là pour la première fois, mais j'ai été au courant par une personne très gentille qui m'a mis au courant et qui m'a montré justement les sutras que vous utilisez. Ouais. Donc ce sont des lettres qui, connectées entre elles comme ça, ne veulent rien dire en soi, ouais, mais qui sont très chargées en énergie. Ouais. Ce sont les lettres qui ont été placées au début de quelques sourates dans le Coran pour la protection justement. Et je sais qu'on les utilise pour se protéger soi-même. On peut les écrire à la porte en haut de la porte de sa maison.
C'est une interprétation. Parce que là, quand on rentre dans la phase méditative, il n'y a pas cette notion de se protéger. Je veux me protéger contre qui ? Non, mais ça, c'est important.
Contre soi-même, d'abord.
Oui, mais c'est important. Il y a la notion de chronobiologie que vous avez mis en évidence. Le corps vit une temporalité, bien sûr. Il y a des cycles neuro-hormonaux. Donc, la temporalité est importante. La structure temporelle, physiologique, est une évidence à respecter. Et méditer d'une façon synchronisée avec des rythmes de l'univers, l'Advaita parlait de certaines doshas en compatibilité avec une certaine heure de journée, c'est hyper important. Mais l'expérience m'a montré, quand je donne une formation, je donne des outils de méditation. Je ne vais pas insister sur le fait de rendre la méditation très disciplinaire. Déjà le fait de trouver une heure par jour, les gens trouvent que c'est déjà difficile, comment trouver une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et encore leur imposer une chronobiologie greffée sur la méditation, ils ne vont pas méditer. Donc, il faut essayer d'adoucir, de simplifier au maximum. Parce que quand on commence à méditer le matin et le soir, après un certain moment, on va trouver son propre rythme. Il n'y a pas de rythme généralisé. On peut trouver, par exemple, un rythme qui est compatible avec mes structures matricielles à purifier et qui se situe, par exemple, l'après-midi. Et l'autre va se situer le matin. La rythmicité, c'est à retrouver. C'est comme en médecine, on généralise. Et c'est une erreur fondamentale parce que deux personnes ne se ressemblent pas. Et la pire des choses en médecine, j'étais directeur d'un laboratoire d'analyse médicale et de recherche. Qu'est-ce qu'on faisait dans l'analyse ? Des prélèvements sanguins pour doser, soi-disant, certains paramètres. Mais ça, c'est un leurre. Quand tu fais un prélèvement, par exemple, tu veux doser du fer dans le corps. Un exemple que je vous donne. Le fer dans le corps, ce n'est pas du fer matière. Le corps est un processus quantique. Le fer est alchimisé en permanence dans le corps. C'est un processus, le fer. Quand je fais sortir le sang par ce prélèvement, je suis devant un cadavre. Le sang est mort. Et c'est quand le sang devient mort qu'il va manifester la matière, il va se condenser. Dans le corps, il est sous forme d'un processus, dans le prélèvement, il va se condenser, il va devenir matière. Donc vous voyez déjà l'interface d'erreur. Ce que je dose n'existe pas en réalité. Et toute la médecine, vas-y les prélèvements, les paramètres, le diagnostic. Tu rentres chez un médecin avec un petit symptôme, tu peux en sortir avec une maladie. Mes chers amis, donc c'est pas facile de généraliser. Ouais, Habib.
Je m'excuse, bonjour. Bonjour. Déjà, du point de vue médical, l'information n'est que sur l'instant et le moment. Ça nous donne simplement une fourchette pour une approche. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher à un chiffre, mais plutôt s'attacher à une approche. Cette approche qui nous dit, ou trop de sucre ou pas assez, qui nous permet éventuellement de relativiser face à l'individu, et non face à un système, ni même face au sang complètement, d'une part. Et je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de nous ramener dans un état qui est merveilleux. Au départ, j'étais intellectuellement... Je suis arrivée avec ma conscience intellectuelle où je voulais comprendre d'abord. Et petit à petit, à travers vos propos, je suis arrivée à être dans un état de présence. Merci de votre présence qui m'a insufflé cet état de présence qui m'a amené à vivre un état avec ce vide que vous dites qu'il faut amplifier. Voilà. Et c'est ça qui est merveilleux. Aujourd'hui, je fais cette expérience avec vous qui me permet de me dire, enfin, il y a des gens qui nous permettent d'être. Et c'est cet état-là qu'on recherche. Bien sûr, le gourou peut nous amener dans cet état. Mais c'est vrai que c'est à nous de le trouver en nous. Et c'est justement l'expérience avec nous-mêmes qui nous permet de reconnaître ce vide enfin réapproprié. Voilà, merci beaucoup de cet état-là.
Merci,
merveilleux, c'est une joie.
Merci à vous tous. Vous avez cristallisé une impulsion formidable ce jour. Merci de votre présence, tout le monde. J'ai dit toujours à mes amis dans les formations, ne croyez pas que vous êtes négligeables. Si on prend l'univers dans sa globalité, et si on enlève une particule négligeable de cet univers, l'univers va s'effondrer. Donc vous êtes nécessaire à la manifestation. Vous êtes un élément formidable et essentiel et fondamental. Merci de votre présence. Merci.
Alors, j'ai une question concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, que le cœur était un unifiant. Oui. Quelle est, dans l'explication physique, l'importance du cœur et l'importance par rapport au cerveau, justement.
Tout à
Parce
fait.
Que dans la
Bonne
tradition,
question.
Il est dit que le cœur est la partie la plus importante du corps.
Si
le cœur est pur, tout le corps se purifie. Ouais. Si le cœur n'est pas pur...
Le sutra qui dit « Wafakiru biqulubikum » « Pensez avec votre cœur ». Et là, on voit que la science démontre aussi quelque chose de fondamental. Au niveau du cœur, il y a des cellules nerveuses. Et il y a ce qu'on appelle la corrélation psycho-cardiaque. Et quand on va vivre les états supérieurs de conscience, le cœur va s'harmoniser, se synchroniser avec les fréquences cérébrales. À tel point qu'on ne va pas penser différemment de ce qu'on sent. Ressentir et penser vont devenir un couple harmonieux. Et là, il va y avoir une structuration. Les ondes cérébrales vont se synchroniser sur les ondes du cœur. Et ça renforce la qualité de l'amour. Et ça renforce la parole intégrée dans le champ de l'amour. Merci, mes chers amis. Merci.
Il y a de l'attraction, il y a...